Bonjour à tous, chers auditeurs fidèles de Radio Médecine Douce, bienvenue dans mon émission Équilibre de vie. Aujourd'hui, je suis accompagné de Serge Boutboul. Bonjour Serge.
Bonjour Emmanuel.
Voilà, alors Serge, vous l'avez déjà entendu en ma compagnie, sur toute une série d'émissions aussi passionnantes les unes que les autres sur les facultés psychiques. On va revenir dessus, on va vous laisser télécharger et revenir sur ces émissions qui sont téléchargeables sur le site de Radio Médecine Douce et aussi sur ton site que l'on trouve
sergeboutboul.com.
Et bien voilà, vous savez tout. Alors aujourd'hui, nous allons ensemble parler d'un sujet très passionnant comme les uns et les autres, mais c'est l'ombre et la lumière. Alors on va préciser ce que c'est ensemble avec Serge. Pour parler de ce sujet, donc qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on nous entendons tous les deux par ombre et lumière? C'est agir à distance du côté positif et négatif, à travers le mécanisme de la pensée. C'est aussi ressentir l'autre à distance, les charges énergétiques qui sont sur soi et nos environnements, comme nos maisons, et aussi pourquoi devons-nous affronter notre part d'ombre. Alors ça, c'est la part d'ombre dont nous allons parler ensemble. Et ensuite, la part de lumière, puisqu'il faut l'inverse aussi également. Et de la lumière, elle est très puissante. Donc, c'est comment s'y connecter et y rester. Les erreurs à éviter, mais pour y rester dans cette lumière. Hein. Tout ce qui est les erreurs à éviter pour rester dans cette lumière. Donc, ce qui est reconnaissance, doute, jalousie, les influences négatives, les dispersions, toutes ces choses que nous connaissons très bien au quotidien. Et ensuite, ce qui est très important, c'est reconnaître les signes qui nous sont envoyés, la limite d'action donc de nos on va dire partenaires, nos accompagnants, on va dire plutôt, on les appelle comme ça, les guides et les anges, appelez-les comme vous voulez. Alors, on commence par l'ombre, Serge, si tu veux bien.
Oui.
Bon, alors, agir à distance, qu'est-ce que c'est, etc. Le mécanisme de la pensée, on marche ça beaucoup par visualisation.
L'une des plus grandes clés de l'invisible est la visualisation. Il suffit de déjà sur Terre de visualiser quelque chose, on appelle cela déjà classiquement la pensée créatrice, hein, ou la visualisation positive, où il y a beaucoup de noms qui sont attribués à cela, mais malgré tout, les lois du visible sont incluses dans les lois de l'invisible. Et l'une des choses les plus importantes, c'est que dans l'invisible, tout marche par visualisation. C'est-à-dire que si nous avons besoin d'avoir un logement qui soit très sympathique, il nous suffit de le visualiser et cela se crée immédiatement dans l'invisible. Sur le plan matériel, c'est un petit peu plus compliqué puisque même si la chose est visualisée et créée dans le subtil, elle n'est pas pour autant matérialisée. Elle va se matérialiser à partir du moment où on aura nourri cette première pensée initiale. Elle aura été nourrie un certain nombre de fois jusqu'à atteindre une certaine puissance. Et quand le seuil de cette puissance sera atteint, elle appellera les matériaux, le constructeur qui sera apte à rendre matérielle sa partie subtile, à la matérialiser, à la rendre compacte et réelle sur ce plan-là. Mais malgré tout, il faut de la puissance énergétique, une grande puissance énergétique, pour que la chose puisse arriver sur Terre. Hein, c'est très important ce point-là. Parce que avant qu'un bâtiment se crée, avant qu'un immeuble se fasse ou une maison, eh bien, elle a déjà été nourrie par les pensées des architectes, des entrepreneurs, du maçon, etc. Et l'ensemble de toutes ces pensées vont créer, ainsi que, faut pas oublier que les personnes qui vont y vivre vont projeter sur le lieu des choses en disant tiens, je vois bien la cuisine là, ce sera bien dans ce sens-là, etc. Tout cela va nourrir le lieu, va le préparer, va le densifier et ça va déjà donner créer la forme invisible et la future structure de ce qui existera bientôt dans l'aspect matériel. Voilà.
Donc l'être humain est ce qu'il pense, on peut dire.
Oui, totalement. Le Bouddha le disait, nous sommes ce que nous pensons et pour moi c'est une réalité. Voilà. Et donc c'est très important de bien comprendre cette loi de la pensée. Pourquoi? Parce que nous avons deux types de personnes. Nous avons les personnes qui vont de l'avant et qui ne pensent qu'à leur projet et qui veulent réussir. Et si on mange avec quelqu'un qui veut créer son entreprise et qui ne pense qu'à ça, pendant l'entrée, ben, on mange un petit peu de son entreprise. Le plat de résistance, on mange encore de son entreprise. Le dessert, on est encore dans l'entreprise. Et le café, on termine encore dans l'entreprise. Dans un tel cas, il y a fort à parier que l'entreprise qui est pensée, qui est dans laquelle la personne se baigne et ne pense qu'à ça, hein, qui est projetée dans l'invisible, réussira bien sûr, parce qu'à un certain moment, la personne, à force de ne penser qu'à ça, elle va forcément se matérialiser à un certain moment. Alors là, nous avons affaire au mécanisme de la réussite. La personne qui pense, qui nourrit son projet, et le projet va avoir une telle puissance qu'il va forcément arriver. Après, à voir comment ça se passe pour l'avenir, dans un deuxième temps. Mais déjà, au moins, la réalisation matérielle du projet,
ça
déjà.
Ça se passe comme ça, beaucoup en sport, beaucoup pour les réussites, enfin, tout type de réussite, même totalement. Des compétitions. Oui. Alors, donc, agir à distance, c'est le même procédé, le même mécanisme dans la projection visuelle sur autrui, sur l'autre, ou sur un élément. Alors, une structure, on peut dire.
Ce qui se passe, c'est cela. En réalité, dans l'invisible, sur les plans subtils,
et on peut dire... Je parle d'agir à distance.
Hein. Oui, totalement. Hein. C'est comme sur Terre, l'action à distance est exactement la même que nous soyons dans le subtil ou dans le physique, c'est exactement pareil. Il n'y a pas de distance, en fait. C'est-à-dire que si on pense à quelqu'un, notre pensée va directement le rejoindre. L'action à distance est exactement sur le même trajet, c'est-à-dire que nous pensons à la
téléphone,
personne.
Voilà. Personne n'est pas
nous
à
sommes,
côté.
En réalité, nous sommes dans un monde clos, même s'il est à l'infini, et si je pense à quelqu'un, ma pensée va immédiatement le rejoindre. Si la personne est télépathe, la pensée déjà va traverser son subconscient, ce qui est classique pour beaucoup de monde, pour chacun d'entre nous, sauf qu'elle va percevoir qu'on a pensé à elle, et elle va le capter. Et je vois, il n'y a pas très longtemps... ce qui m'est arrivé il y a quelques semaines, j'étais avec ma femme et d'un seul coup il y avait quelqu'un qui j'avais l'information comme quoi quelqu'un est en train de parler de moi en négatif, et je le lui ai dit en disant: tiens, telle personne est en train de me tailler un costard, comme dit l'expression. Le lendemain, j'avais cette personne qui s'est excusée dans tous les sens alors que je ne lui avais rien dit. Voilà, donc c'est arrivé même le lendemain. Voilà, donc je alors, à partir du moment où on a ouvert sur l'aspect des perceptions, des ressentis, etc., on devient très sensitif. C'est-à-dire que même quelque chose qui atteint le subconscient pour certains, eh bien, vu que notre sensitivité va jusque-là, on va l'inclure, on va le percevoir même dans le conscient. Voilà.
Alors, c'est parfait, tu as introduit la suite. Donc, c'est ressentir l'autre et donc agir à distance, mais ressentir ce qu'il y a sur soi, sur les éléments, maintenant, les charges énergétiques que nous avons sur nous. D'un point de vue sur soi, environnement, positif comme négatif, les gens sont toujours fatigués, on se traîne, on avance, on reverra ça un petit peu après, mais qu'est-ce qu'on peut dire sur ces éléments-là, par rapport à ces charges énergétiques? Alors, dans le ressenti pour soi, puisque là on a parlé du ressenti de l'autre à distance.
Alors, comme je le disais dans le premier livre, c'est-à-dire le livre qui s'appelle « Développer vos facultés psychiques et spirituelles », la meilleure des protections est le ressenti. Si nous ressentons bien les choses, nous pouvons nous départir des charges négatives, puisque nous allons repérer qu'il y a une charge.
Alors ça permet de rappeler le premier sujet qu'on avait vu. On a travaillé le ressenti dans une des émissions de radio que nous avons fait ensemble. Voilà. On ne va pas revenir dessus. Non. Donc on va aller directement sur ces charges énergétiques qui sont sur soi et l'environnement, hein, comme par exemple une vieille maison, quelqu'un qui habite, par exemple, une maison habitée avec des entités, des petites choses comme ça.
Mais le développement du ressenti va au-delà même des charges que nous portons. Il va même permettre de faire apparaître dans notre perception subtile les présences même subtiles et invisibles qui hantent une maison, par exemple. Donc, plus nous grandissons dans ces ressentis, plus nous pouvons repérer ou les charges, ou les présences, ou le mal-être, ou est-ce que nous en sommes au niveau énergétique. Donc ça peut aller très très loin, ce déploiement du ressenti.
D'accord, alors pourquoi on doit, alors vu qu'on parle de ces parts d'ombre, alors comment et pourquoi devons-nous les affronter, pourquoi elles se présentent à nous
Alors, le chemin spirituel oblige. Il n'y a pas de chemin spirituel qui évite
chemin de vie.
Chemin de vie, chemin d'ouverture de l'esprit, voilà. Un chemin d'évolution. Il n'y a pas de chemin d'ouverture sans affronter sa partie sombre. Pourquoi ? Parce que elle fait partie du chemin. Dans la tradition, on parle de vaincre le vieil homme. Et le vieil homme, c'est cette partie sombre qui est notre partie un petit peu inversée et qui va transformer tout, qui va récupérer les choses pour elle, etc. Et l'ouverture vers ce que l'on appelle l'amour avec un grand A, qui fait partie du chemin réellement spirituel, de quel que soit le chemin spirituel que nous prenons, tous les chemins spirituels mènent, s'ils sont authentiques, vers l'amour, eh bien, tout ce qui est les empêcheurs d'atteindre cet état-là d'amour, eh bien, que ce soit notre jalousie, que ce soit des intentions qui sont cachées mais qui sont aussi réelles, eh bien, elles doivent être dépassées et transcendées. Voilà. Il faut bien les rencontrer, bien accepter ce que nous sommes pour se dire, bon, ok, je vais travailler sur moi pour faire changer cela. Et à partir de ce moment-là, il va y avoir ce que l'on appelle une transmutation, une transformation. Hein, le fait déjà de l'avoir accepté fait déjà partie du travail. Et puis, petit à petit, notre cœur, comme dit la tradition, notre cœur de pierre va petit à petit se transformer en un cœur de chair.
Alors peut-être pour répéter ou pour préciser, moi, une question qui me vient, que les auditeurs peuvent se poser, c'est comment prenons conscience de cela, sur soi ou sur l'environnement. Alors, c'est ce fameux sixième sens, on peut l'appeler comme ça, je suis d'accord.
Oui, on peut l'appeler sixième sens, mais dans le mot sixième sens, il y a beaucoup de choses qui sont dites.
Bon, c'est un peu un fourre-tout.
Voilà, c'est un peu un fourre-tout.
En fait, on essaie de synthétiser pour les gens, on parle aux initiés, aux non-initiés.
Alors, quand nous voulons ressentir un état ou un lieu, on doit se poser, c'est-à-dire que je prends souvent l'exemple d'une position qui est celle de Michel Moine, qui n'est pas de moi, c'est la position des 3 V, c'est-à-dire qu'on prend la position de quelqu'un qui va comme dans les films de cow-boy, hein, qui va dégainer ses pistolets. Alors on a les jambes un petit peu écartées, les bras et les mains un peu écartées aussi, et donc ça fait 3 V inversés, hein, là, entre les jambes, entre la main gauche et notre côté gauche, et notre main droite et notre côté droit. Main droite,
pour les auditeurs, oui, pour un petit point d'humour, on voit Serge qui fait un petit peu le cow-boy à côté
de
moi.
Sans les pistolets quand même. Hein. Voilà, et ça permet, en se mettant dans cette position et être à l'écoute du lieu, alors il faut bien préciser à quoi nous sommes à l'écoute. Hein, c'est important d'avoir bien notre convention en disant, voilà, moi je cible cela, je veux ressentir, mais comment je me ressens dans le lieu.
Ce qui est important aussi, Serge, on peut le dire, c'est déjà prendre conscience de son propre corps. Après, ça vient après, déjà sa respiration.
Oui, totalement. Alors, plus nous allons nous nettoyer nos charges subtiles, plus nous allons les repérer, plus nous allons nous nettoyer, et plus notre sensibilité va être fine, plus nos perceptions vont être pures. Et là, on va arriver à quelque chose qui va être beaucoup plus fulgurant qu'au départ, alors que ça sera qu'une impression ou des impressions disparates. Mmh. Au début, les personnes vont dire « j'ai eu l'impression que ». Après, quand la personne est déployée au niveau sensitif, elle va plus parler d'une impression. Elle va dire « j'ai senti ça ». Et c'est évident pour elle, et ça sera pour elle une certitude. Et quelques secondes suffiront pour cette personne pour ressentir quelque chose, alors que la première personne qui débute va un petit peu essayer, ressentir, douter et revenir sur sa question.
Le plus grand ennemi dont on va parler dans quelques instants, c'est le fameux doute.
Oui,
c'est le fameux doute.
Alors, le doute, c'est celui qui détruit, pas celui qui construit, parce qu'il y a deux doutes, en fait. Il y a le doute qui est un doute important quand nous avançons sur le chemin, quand on avance sur des recherches scientifiques ou quoi. Il est nécessaire de se poser les autres questions en se disant, mais est-ce que la question que je me pose, est-ce que je suis dans le vrai ou est-ce que je me fais un film ? C'est très important de rester dans ce regard-là, parce que sinon, on peut raconter n'importe quoi sur n'importe quoi. Donc, on glisse. Et là, ce n'est pas permis. On n'a pas le droit de faire cela. Donc, le doute, c'est-à-dire la remise en question, en disant « je dois me remettre en question pour voir si je ne me trompe pas », eh bien, est nécessaire pour avoir une authenticité, une fiabilité. Voilà. Et quels que soient nos outils que nous développons, que ce soit l'intuition, la clairvoyance, les ressentis, nous devons les vérifier, les éprouver. Et ce n'est pas vraiment un doute dans le sens de douter, c'est de dire, il faut tester ces outils, est-ce qu'ils sont fiables ou est-ce que je me trompe pas. Et ça, c'est le doute qui construit. Par contre, le doute qui détruit, c'est-à-dire une négation de la chose, là, il faut méditer dessus en disant, pourquoi je doute, pourquoi je n'y crois pas. Et là, il faut chercher pourquoi. Il peut y avoir une peur qui est cachée, et c'est souvent le cas de gens qui refusent certaines choses en bloc, et en fait, en creusant un petit peu, on s'aperçoit que quand la personne baisse un peu son bouclier, on s'aperçoit que la personne avait sincèrement peur et qu'elle avait eu antérieurement des expériences qu'elle n'a pas osé dire dans sa jeunesse et qui lui ont fait très peur.
Bien, écoute, tu introduis très bien les choses, donc maintenant, puisqu'on est on va quitter cette ombre, puisqu'on a eu les deux doutes dont tu as parlé. Et donc, si nous rentrons dans la lumière, oui. Après, donc, On va voir comment s'y connecter et y rester, puisque on devait s'affronter nos parts d'ombre. Maintenant que nous avons affronté, il faudrait bien avec la lumière, c'est la lumière qui combat cette fameuse ombre.
Totalement. Alors il y a Omar Khayyam qui dit, ce n'est pas la lumière qui recule devant l'ombre, ce sont les ombres qui reculent devant la lumière. Ça, c'est très important de bien comprendre cela. Pour le mécanisme de la lumière et de l'ombre, il faut savoir que si nous avançons vers la lumière, nous devons regarder la lumière. Beaucoup de gens ont tendance à se dire, je veux éviter l'ombre, donc je regarde l'ombre. Et plus nous allons regarder l'ombre, et plus elle va se rapprocher. C'est une erreur énorme. Parce qu'en réalité, par résonance, s'il y a des gens qui voient le diable partout, à un certain moment, elles baissent leur vibration et elles vont tomber.
Même si on est en période d'ombre, en fait, on regarde
Oui,
la lumière, ou
totalement.
même si dans un an on y pense, on pense, là on fixe
Totalement.
le nuage, on fixe, on ne pense qu'à ça, en fait,
Voilà.
pour
Et en fait,
pouvoir
si on
s'y
regarde le
rapprocher, on va
bas,
dire.
voilà. Alors, il faut réellement regarder la lumière. Alors, qu'est-ce que c'est que la lumière? C'est ça la
Ah
question
bon,
principale.
elle est propre
Alors,
à chacun, on va
pour
dire.
quelqu'un d'EDF, ce sera 240 watts.
C'est-à-dire.
Pour nous, disons que la lumière,
On se
c'est.
lâche hein,
Alors,
dans
on se
cette
lâche un peu
émission,
quand même,
toujours. Hein.
hein. C'est très
Bon,
important.
allons-y.
Voilà.
Parce que
Alors.
là, en fait, on va rentrer dans ces erreurs hein, pour éviter de s'électrocuter. Hein. Donc, c'est la reconnaissance, doute, jalousie, influence négative, dispersion. C'est la tentation du côté obscur, comme on fait. On
Voilà,
n'est plus à la
voilà.
trilogie, on est sur les 6 épisodes de la Guerre des Étoiles.
Voilà.
Mais ça, c'est très important dans ce que j'écoute, ce que j'entends, c'est les erreurs à éviter pour rester dans la lumière. Le plus dur, c'est d'y rester. La lumière, on la
Oui.
voit, mais après, une fois qu'on l'a, mais le plus dur est d'y rester.
Oui, totalement. Alors déjà, le fait d'avoir une bonne définition de la lumière, c'est important déjà de préciser cet axe-là qui pour moi est principal. Alors, qu'est-ce que la
Mais
lumière?
elle peut être liée à l'EDF. Il y a des gens qui peuvent la voir comme ce symbole de la grosse lumière, le soleil, enfin tout ce qui est sensible, enfin, peu importe, mais bon,
Oui, totalement. Alors,
éclaire-nous justement sur ce sujet.
si on parle de luminosité, on va déjà parler, puisqu'on parle de luminosité, il est bon de remarquer une chose, c'est que, alors je vais parler d'un sujet qui paraît extérieur, mais qui n'est pas si extérieur que cela. À quel endroit, dans quel lieu faisons-nous des cauchemars? Alors, il faut savoir une chose, c'est que les plans de la Terre, les plans astro-inférieurs, de la Terre sont sous la Terre. Quand nous sommes en bas, dans le bas astral, nous sommes dans l'ombre, dans le noir presque. Dans les plans supérieurs, tout est pastel, ce sont des mondes d'amour, tout est lumière, tout est lumineux. Donc entendons bien, les plans légers sont en haut, comme sur Terre, vous voyez, on a la même chose avec la pesanteur, et sur l'aspect subtil, c'est pareil. Hein, je rappelle cette phrase d'Hermès Trismégiste qui dit ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas pour faire le miracle d'une seule chose. Et bien sur Terre, tout ce qui est léger est en hauteur, et tout ce qui est lourd est en bas. Mais dans le subtil, c'est exactement pareil. Les plans supérieurs sont en haut, et les plans lourds et denses sont en bas. Pourquoi j'ai dit cela? Parce que par rapport à la luminosité, puisque nous parlons d'un aspect technique, eh bien, nous ne faisons pas, en général, de cauchemars dans les mondes d'amour et de félicité, des mondes où il y a beaucoup de lumière et où tout est beau. Nous le faisons souvent dans des mondes sombres. Regardez vos cauchemars, en général. Hein, je vois pas trop le cauchemar où la personne dit « Je suis totalement dans l'amour, il fait beau, tout est bien, je suis mal. » En général, c'est plutôt parce qu'on est dans des endroits glauques, et si nous regardons bien, nous sommes presque dans le noir, et ça correspond totalement à un corps astral qui est perdu dans le bas astral. Et souvent, la personne est perdue, elle est mal parce que le lieu respire pas totalement la bonté, et on est vraiment dans un cauchemar. Alors, faut le savoir, ce sont les mondes sombres qui sont en bas. Hein, faut le savoir que le plan astro inférieur sont sombres. Ça, c'est pour l'aspect technique.
Si je peux me permettre, juste une question moi, qui me vient. Bon, là, comment tu définirais pour toi, qu'est-ce que le cauchemar? Est-ce que c'est quelque chose qui se remonte, hors des psychologues, des psychiatres, ta propre définition à toi, qui est dans la lumière, qu'est-ce que le cauchemar? D'où vient-il? Est-ce que ces choses sont refoulées, qui
Alors,
ressortent? Comment?
j'ai une problématique avec certains dictionnaires je crois que ça s'appelle j'arrive jamais à me le dire, Lori, oui, bon, c'est pas grave, les dictionnaires de rêve, en fait, hein. Voilà. Le mot est un petit peu compliqué, il me revient pas, mais bon. Ce que je veux simplement dire, c'est que dans les dictionnaires de rêve, normalement, il y a toujours ce que l'on appelle les archétypes. Imaginons que nous nous sommes fait mordre par un chien. Eh bien, le chien, d'habitude, est un ami en temps normal. Et dans l'aspect archétypal, il sera pour tous un ami, sauf pour la personne qui s'est fait morte par le chien. Donc, il y a des choses par rapport à ça qui entrent dans les rêves, qui rentrent dans les cauchemars, qui entrent dans notre signature personnelle. La chose qui est importante aussi, c'est que dans le rêve ou dans le cauchemar, rentre la digestion, rentre les besoins du corps, rentre les messages des guides, rentre les sorties astrales, parce que le corps astral peut sortir, le corps mental peut sortir, le corps causal peut sortir, et il peut y avoir les besoins du corps qui n'a pas eu le temps d'aller uriner avant d'aller dormir, par exemple. Et en fait, le corps astral va chercher dans l'astral comment répondre à ce besoin alors qu'il ne peut pas répondre à ce besoin-là. Donc tout cela revient et est trié par le cerveau, qui va lui-même dire « ça je prends, ça je prends pas ». Alors ça donne un agglomérat de toutes sortes d'informations qui fait que pour moi, le cauchemar n'est pas forcément une chose, mais un ensemble de choses. Et, ça, et le, plus il y a cette, je dirais, plus
il y a des gens qui
autant d'informations et disparates et différentes, plus la chose est moins perd de sa fiabilité. Voilà. Alors pour moi, on n'est pas sur quelque chose qui est stable, qui est sûr, puisqu'on ne sait pas d'où vient la source.
D'accord, c'est pas un fourre-tout, on n'appelle pas ça.
Ça peut être un fourre-tout aussi, ouais. Puisqu'on ne sait pas si, voilà, le fait d'être en bas, est-ce qu'on aurait pu aussi visualiser que nous sommes en bas, alors qu'on n'est pas en bas, on est dans notre tête. On peut, voilà. Donc, le cauchemar peut être aussi une résultante d'un mal-être personnel. Mais ce mal-être personnel, la différence, elle est là, c'est que si vibratoirement nous sommes mal, eh bien, et c'est ce qui se passe souvent dans le mécanisme de la dépression nerveuse, c'est-à-dire que la personne, au moment de se coucher, va mal. Et donc trouve la vie dure et c'est très difficile, eh bien par résonance, le corps astral va aller dans les plans inférieurs. Et en allant dans les plans inférieurs, il va se récupérer des parasites. Et il va remonter avec son pack de parasites
qui va se nourrir. En fait,
oui,
quelque
oui
part aussi.
Totalement. Et ces parasites vont s'installer sur le corps éthérique et en même temps aspirer les énergies rendant la victime de plus en plus mal.
Alors comme on a vu ce fourre-tout un petit peu, entre guillemets, dans les cauchemars, donc là c'est vraiment l'extrême, c'est difficile forcément de les reconnaître, parce que des fois on ne se souvient pas forcément des rêves et des cauchemars,
totalement.
Mais dans la vie de tous les jours, je sors de chez moi, donc c'est reconnaître les signes qui nous sont envoyés, alors il y a des signes positifs et des signes négatifs, donc quelle est notre limite d'action? Déjà c'est la reconnaissance, c'est ça le plus important,
alors,
qui va permettre de pouvoir ressentir et d'apprécier le ressenti, de mieux contrôler sa vie. Je donne un petit peu des clés qui vont permettre d'avancer quand on soit chez soi, ou ça peut être changer la place d'un lit ou d'un siège, ou la rencontre d'une personne, ou on a vu tout à l'heure en discutant un bruit d'oiseau, ou un bruit, ou un tout qui confirme, ou plein de petites choses, ou ne serait-ce qu'un drapeau d'un pays, comment on peut le croiser ou autre, ou des appels, ou des signes, ou des symboles, on peut dire. Ça, donc là, reconnaître les signes qui nous sont envoyés, comme on disait en introduction de l'émission. Alors on a parlé de la limite d'action des anges et de nos guides, on va en parler, mais surtout de se connecter à la lumière et y rester. Alors,
voilà. Alors le fait d'avancer sur le chemin, d'avancer sur notre chemin de vie, eh bien, fait que si nous voulons être éclairés, sans faire de jeu de mots, nous devons trouver notre lumière intérieure, trouver ce qui nous anime, trouver ce pourquoi nous sommes venus sur Terre. Si possible, trouver notre mission sur Terre. Et en avançant sur ce chemin, alors je disais qu'est-ce que la lumière, on a commencé à en parler, et je voudrais continuer là-dessus parce que c'est très important. La lumière, qu'est-ce que c'est? La lumière, ce sont les mondes supérieurs. Ce sont des mondes de lumière pour lesquels la plupart d'entre nous venons de ces mondes-là, et un jour nous remonterons vers ces mondes. Ce sont aussi ces êtres de lumière qui sont tout amour, hein, qu'ils soient sur Terre, ou qu'il soit là-haut, c'est la lumière aussi. Certains vont
chacun ses croyances.
Alors quelle que soit notre origine, quelle que soit notre religion, ce n'est pas important. Ce sont des mots, mais il y a aussi celui que l'on appelle Dieu avec un grand D.
Pas d'influence si on expose
un
schéma. Hein,
totalement. Alors celui qui y croit, il croit. Celui qui n'y croit pas, ce n'est pas important. Certains vont l'appeler le grand architecte de l'univers ou quoi. Ce n'est pas important. L'important, c'est de savoir que tout est organisé, même si on ne sait pas forcément par qui, de façon harmonieuse, surtout dans les plans subtils supérieurs. Et en même temps, dans ces plans, on baigne dans cette lumière d'amour. Alors, il suffit de voir simplement ces personnes qui reviennent qui viennent de vivre ce que l'on appelle une NDE, c'est-à-dire une expérience de mort imminente, Et pour dire, voilà, j'ai vu la lumière, j'ai baigné dans la lumière, j'ai vu mon grand-père.
Ce fameux tunnel. Hein,
ce fameux
on
tunnel.
Rappelle aux gens, les gens voient un tunnel et tout au bout une grande lumière.
Voilà. Et en disant, mais j'ai voulu y rester. Et en fait, je n'avais pas fini le temps que j'avais à faire sur Terre. Donc on m'a dit, il faut que tu termines, il faut que tu reviennes. Alors bien sûr, il ne faut surtout pas abréger son temps, parce que le temps qui n'est pas fini, qui n'est pas terminé, quand il y a un suicide, la personne malheureusement doit revenir. Et c'est ça qui est problématique pour beaucoup, c'est que parfois on doit assumer ces choses-là. Et ça fait partie du chemin de la descente sur Terre. Mais la lumière existe, elle est là, beaucoup l'ont vue.
Hein, on parle bien du suicide, c'est des gens qui ont des accidents très tôt, très
oui.
jeunes.
Ah non, mais là c'est autre chose quand même. Hein. Là la personne, quand elle part d'elle-même, c'est comme si elle faisait une rupture de contrat. Donc voilà, alors attention, tout n'est pas arrêté à ce que je dis. Bien sûr, il y a des exceptions. Et je ne peux pas dire pour tous, mais il faut éviter ce genre de choses. Effectivement, le suicide n'est pas un chemin véritable, bien sûr. C'est plutôt une rupture de contrat véritable. Hein, voilà. La chose qui est intéressante, c'est celle-ci, c'est que nous avançons vers le chemin de lumière. Alors, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que le chemin de lumière? C'est le chemin où on va retourner vers ce que nous sommes. Et qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes des esprits. Nous sommes des esprits habitant des corps. Nous sommes avant tout autre chose qu'un corps physique que nous allons laisser au cimetière dans quelques dizaines d'années. Nous sommes autre chose que cela.
Pessimiste, plusieurs dizaines d'années, ça dépend qui nous écoute.
Ah oui, totalement. Oui, oui, oui. C'est vrai que
on va recentrer un peu les choses.
Voilà, voilà. Si on s'appelle Jeanne Calment, c'est 122 ans. Si on s'appelle Jeanne Trangsen, ça va être 130 ans peut-être. Ou Diane Tanvik, pour un autre médicament, ça sera peut-être 90 ans. Mais bon, voilà. Ce que je veux simplement dire, c'est que malheureusement ou heureusement, la vie sur Terre n'est que limitée. Alors que ce que nous sommes, l'esprit dure, tient des milliers et des milliers d'années. On ne sait pas la limite de l'âge d'un esprit. Et donc, quel est notre centre? Est-ce que c'est sur Terre, le principe de Faust en disant « je veux la gloire sur Terre et tout ce qu'il faut sur Terre » ou c'est de se dire « bon, où est-ce que, qui suis-je réellement ?» Et si je reviens sur mon centre, je me centrerai à un niveau supérieur. Alors c'est là où c'est important de prendre conscience de cela si l'on veut avancer sur l'authenticité.
Ok, donc moi je reviens un peu aux signes qui nous sont envoyés. Donc, d'où viennent ces signes? Ça peut être parti d'une personne, d'un lieu, d'un symbole, afin que concrètement la personne puisse se dire, tiens, au bout d'un moment je revois plusieurs ça, c'est faire attention, c'est prendre conscience. Alors, c'est le message que je donne moi, que tu donnes toi aussi d'une autre manière tout à l'heure, c'est vraiment prendre conscience de ce qui se passe. Et à ce moment-là, et de rester dans cette mouvance de lumière afin de, après, de ce que tu disais tout à l'heure, voir son chemin.
Voilà.
Voilà. Alors, de le trouver et afin de dire, tiens, finalement, je vais me diriger vers ça et je vais plutôt éviter cela parce que j'ai déjà eu telle et telle chose qui se sont manifestées à moi et des conseils ou des gens qui m'ont parlé d'eux que je ne connais pas ou d'un soir dans un pot, voilà, on m'a dit, tiens, ça, c'est marrant, on me le dit, ça fait trois fois qu'on me le dit.
Voilà. Alors,
c'est ces petites choses-là, peut-être.
Oui. Alors, Emmanuel, il n'y a pas un seul type de signe.
Non, mais il y en a plein. J'en vais donner un exemple.
Voilà. Alors, je veux dire par là qu'il n'y a pas que des signes de conseil. Il y a des signes d'avertissement. Il y a des signes qui sont là pour aussi consolider ou confirmer certaines informations. Donc, le signe peut être envoyé. Alors, ils sont souvent envoyés par les guides spirituels. Ils sont parfois envoyés par les anges pour avertir, mais ils ont pour but d'accompagner. Ce sont des signes d'accompagnement.
C'est ce que je disais en introduction d'émission, nos accompagnants, guides et anges.
Voilà,
ce que l'on souhaite, mais nos accompagnants.
Voilà. Et là, je vais donner un exemple de ce qui s'est passé pour un élève. Cet élève avait une personne de sa famille qui portait une certaine bague, et à un certain moment, alors que cette personne était en famille, elle a vu cette bague tomber comme avec la main de cette personne de sa famille, donc je crois que c'était un cousin ou une cousine, et cette main avec cette bague est descendue dans le trou comme si ça tombait dans un gouffre. Immédiatement, la personne a reconnu cette bague comme étant appartenant à telle personne qu'elle connaissait très bien. Et donc, cette personne a fait garder ses enfants et est allée directement dans l'appartement je crois que c'était sa cousine pour le cas, autant que je me rappelle. Et donc, en cherchant un petit peu, elle a retrouvé sa cousine cloîtrée dans un coin, et la personne avait pris des médicaments pour se suicider, et on avait même pris la couleur qui commençait à être bleutée, la couleur du corps. Et en fait, qu'est-ce qui a envoyé ce signe? Ce n'est surtout pas elle-même, puisqu'elle était occupée avec ses enfants. Son esprit était déjà occupé avec ses enfants, donc elle n'était pas du tout disponible à un regard sur l'extérieur. Et là, on voit bien l'action du guide qui envoie ce message en disant, le moyen qu'il va avoir pour reconnaître telle personne, c'est la bague de la personne. Et il va faire envoyer l'image de la main qui tombe dans un gouffre, et là, ça va, d'un seul coup, cette image va s'imposer à cet homme qui va dire, mais c'est évident, ma cousine, puisque c'est le cas d'une cousine, tant que je me rappelle, est en danger, j'y vais tout de suite. Et c'est ce qu'elle a fait, elle a pris le taxi et elle a sauvé sa cousine. Voilà. Alors là, on a un signe de sauvetage qui est important et qui est évident, mais on voit bien dans ce cas-là que ça ne vient pas de la personne.
Pour quelqu'un qui a un ressenti, bien sûr, averti.
Voilà.
Alors, on a un très bel exemple de mécanisme de visualisation parfait. Voilà, contrairement, j'avais évoqué un mécanisme de l'extérieur. Et pour conclure cette émission, est-ce que tu aurais idée de parler d'un exercice ou des petites choses, peut-être un petit memento pour donner un petit tuyau, comme ça, si quelque chose t'amène, te vient pour pouvoir, on va dire, résumer un petit peu ce dont on a parlé, c'est tout ce qui est le travail à distance, de sur soi, sur l'autre et même sur l'environnement. Et ensuite, se débarrasser, de contacter cette zone d'ombre, de voir, de la connaître, puis ensuite vraiment se connecter à la lumière afin de bien connaître les deux, de pouvoir faire cet équilibre en résumé dont tu as parlé, pour que l'auditeur puisse ensuite, jongler avec ça dans une situation afin de pouvoir discerner les signes qui seront bien.
Alors, la première chose, c'est celle-ci. Pour travailler sur le travail, donc pour ce qui est du travail à distance, les clés sont données dans le livre Comment percevoir et réagir sur les mondes subtils qui nous entourent.
Ça, c'est le dernier livre.
Le dernier livre. Donc, voilà.
Bon succès parce qu'il était même un peu en rupture, mais ça y est, c'est réarmé un petit peu. Donc.
Voilà.
Et donc, il est paru quand? Tiens, un petit mot, peut-être.
Il est paru, en avril de cette année. Oui, en avril.
Voilà donc tout frais, tout neuf.
Voilà. La chose qui est intéressante, c'est celle-ci, c'est que nous agissions de près ou de loin, c'est exactement pareil. Il suffit de tester, vous verrez. Testez-vous, entraînez-vous.
Par la pensée.
Par la pensée, voilà, on fait comme si la personne était devant nous. Et en fait, par la pensée, plus votre pensée sera forte et plus elle va avoir d'impact et va rejoindre la personne concernée. Donc si nous travaillons comme si la personne était là avec certitude, ça s'appelle entre guillemets avoir la foi, eh bien vous allez voir que vous allez agir. Alors encore faut-il prendre quelqu'un qui soit réceptif, parce que si la personne ne ressent rien, c'est un peu la personne qui ça va pas être équilibré et ça va pas vous aider d'avoir quelqu'un qui ne ressent rien. Donc prenez quelqu'un qui est sensible.
On peut quand même quelqu'un qui va pas bien ou à l'hôpital, on peut quand même faire quelque chose, même si la personne n'est pas forcément réceptive. La pensée, elle est puissante.
Bien sûr.
On parle ensemble, je tiens à préciser aux auditeurs que, on parle de lumière et d'amour. Hein. On envoie ces choses-là afin du soin, du bien-être, dépolluer, de. Ne serait-ce que par la pensée, envoyer des choses. Et on l'a vu dans une émission, envoyer une douche rose, de couvrir quelqu'un d'amour et de la rendre propre et claire, et dans la lumière, va énormément apporter. Et il y a des choses qui vont se passer, Serge, on a parlé
tout à l'heure. Que la personne en ait conscience ou pas, l'important, c'est qu'on fait ce que l'on a à faire. Hein, l'important, c'est de la voir finir la visualisation en la voyant sourire et en la voyant heureuse. Et là, si on arrive à avoir une image nette, ce sera parfait parce que ça va atteindre son but. Même si la personne ne va pas.
Ça, c'est très important ce que tu viens de dire parce qu'on peut visualiser, ça peut être un flou, mais tant que ce n'est pas net, les choses ne se réaliseront pas. On peut dire ça.
Si ça va se réaliser, mais ça va être une petite vague.
Ce sera pas concrète, à 100%. Mais il faut insister.
Il faut à toute
renouveler
façon,
l'opération.
Il faut s'assurer que au début on s'entraîne, c'est ce que je disais dans les entraînements à deux, il faut choisir, là je parlais d'exercice tout à l'heure, on prend quelqu'un de sensitif pour s'entraîner, pour bien voir que ce que je fais l'autre le sent, et là c'est super parce que ça permet automatiquement d'avoir un retour immédiat. Par contre, quand nous avons une urgence, une personne qui est mal, quelqu'un de notre famille ou quelqu'un que nous aimons, on va tout de suite agir et faire au mieux pour la personne, et la personne va sentir qu'elle va se recharger chargée énergétiquement, on va visualiser qu'elle est effectivement, comme tu dis Emmanuel, très justement, dans de l'énergie rose. Alors c'est très bien l'énergie rose, pourquoi? Parce que quand une personne déprime, il ne faut pas lui envoyer de l'énergie blanche, c'est trop fort. Il faut lui envoyer de l'énergie rose, c'est beaucoup plus doux.
Alors qu'est-ce que l'énergie blanche, pour ceux qui ne savent pas, en un mot?
L'énergie blanche, c'est une énergie pure, mais c'est parfois trop fort. C'est comme quand nous sommes très fatigués, on a dû le remarquer, vous avez dû le remarquer, eh bien, on est fatigué d'un seul coup, la lumière du jour nous éblouit. Et on ne supporte même plus la lumière du jour. Donc à ce moment-là, si nous devons prendre la voiture, qu'est-ce que l'on fait? Ben, le cache-lumière, là, le pare-soleil, on le met pour diminuer un petit peu cet éblouissement. Si jamais on avait allumé l'autoradio et qu'on le rallume et que le volume est trop fort, on va se sentir encore agressé. Donc il faut diminuer. Alors quand la personne déprime, il faut une énergie féminine, une énergie douce qui va se diluer tranquillement, mais réussir le même, donner le même résultat, mais en douceur. Et l'énergie rose correspond totalement à ce cas-là.
Il y a quelque chose de bien. Bon, là, on parle des autres, mais commençons déjà par soi-même.
Oui, totalement.
Déjà pour comprendre et ressentir ce qui se passe dans le mécanisme, et on verra que les choses vont évoluer, vont changer avec le temps.
Totalement.
Et on va, j'ai envie de dire ce mot-là, si tu es d'accord, nous transformer.
Oui.
Alors. Mais attention, il n'y a pas de miracle. Hein. C'est tout dans le mécanisme de pensée qu'on a vu dans l'introduction. D'abord à travailler sur soi, tout ce que tu viens de dire.
Alors, travailler sur soi, il y a deux niveaux. Ou on travaille sur les nettoyages astrales, c'est-à-dire les charges que nous avons, ou on travaille sur notre partie spirituelle avec nos défauts à repérer au passage, hein, notre racine personnelle en tant qu'être. Alors, pour ce qui est des charges énergétiques, eh bien l'utilisation, donc on en avait parlé lors de la dernière émission, la douche c'est parfait, on voit. Alors si jamais on vient de ce
sur soi, sur les environnements, voilà. Sur les maisons,
exactement.
Surtout, hein, les animaux, tout ce qu'on
totalement,
veut.
Que ce soit sur nous et ou sur l'environnement, c'est exactement pareil, c'est un nettoyage.
Au passage, les animaux sont plus réceptifs, pour totalement. Ceux qui ont des animaux.
Ils ne sont pas piégés par leur mental, voilà, ils sont plus dans le ressenti. Voilà. Et donc, que ce soit sur nous ou sur notre maison, le simple fait de visualiser, par exemple, une plaque de lumière qui nous traverse et qui enlève et qui pousse un petit peu à l'extérieur, de l'autre côté de la plaque, ce que j'appellerais un tamis, l'ombre ou plutôt les énergies congestionnées que nous portons, eh bien, en descendant ce tamis de la tête vers les pieds, en descendant tout doucement comme si on a une plaque qui nous traverse à la verticale, eh bien, on va sentir dans ses mains que ça frétille, que c'est pas très sympathique, que ça pique, eh bien, quand la plaque...
Des fourmillements. Hein,
voilà,
des fourmillements.
Voilà, et on va sentir que c'est pas très agréable. Eh bien, quand cette plaque arrive au pied, on va visualiser qu'on la pousse très très loin, comme ça elle va aller dans le centre de la Terre, qui recyclera ces énergies ou ces miasmes. Eh bien, après cela, qu'est-ce que nous allons sentir? Eh bien, la première chose que nous allons sentir, c'est de la chaleur. Et la chaleur, c'est le signe que l'énergie revient. Et ces énergies qui étaient congestionnées, c'est-à-dire stagnantes, eh bien, vont être remplacées par de la matière astrale ou de l'énergie astrale qui va prendre la juste place qu'elle devait prendre. Donc ça va nous donner beaucoup plus d'énergie après. Et donc à chaque fois que nous enlevons des corps étrangers ou des charges que nous devrions occuper nous-mêmes avec nos corps subtils, eh bien nous récupérons entre guillemets, de l'énergie, de la présence, de la puissance, de la conscience et de la préscience.
Je crois que tu as tout dit dessus, puisque bon, chacun ses propres outils, toute façon.
Et
tu voulais rajouter quelque chose.
Je voulais rajouter par rapport aux parts d'ombre. Alors, comment va-t-on repérer que nous avons des parts d'ombre? Bien sûr, c'est la chose qui est la plus difficile. Jung disait que il fallait un très grand courage pour s'accepter tel que nous sommes. Mais c'est exactement ça. Il faut accepter que nous ne sommes que cela, pas plus. Et en acceptant ce que nous sommes, sans se prendre pour telle ou telle personne, eh bien, on aura moins, la chute sera moins rude. Hein, on sera sur une réalité qui est la nôtre, bon, on l'accepte, bon, mais on va aller beaucoup plus loin à partir de là, parce que là, on est sur une base qui est sûre. Alors, après cela, comment on va repérer nos parts d'ombre? Eh bien, on va les repérer parce que derrière nos pensées, il y a nos intentions. Si on commence à chercher nos intentions derrière nos pensées, dès qu'il va y avoir une réaction que nous avons qui ne doit pas être, en disant « mais pourquoi j'ai réagi comme cela? Est-ce que mon intention était pure ?» Eh bien, et que l'on va voir que ce n'était pas totalement ça, eh bien, si on accepte de bien regarder la chose sans fermer les yeux sur cela, là, on va vraiment progresser. Et réellement, on va faire une ligne droite, hein. Alors que si on a un gros lièvre et que l'on fait comme beaucoup, beaucoup de monde, et nous sommes tous pareils, hein, moi aussi, eh bien, et que l'on contourne ce lièvre en regardant à droite, à gauche, mais surtout pas le lièvre, parce qu'on ne veut pas le voir, eh bien, à un certain moment, ben, le chemin va être un peu plus long. Et si on veut progresser, il faut faire sauter ça. Et à un certain moment, ben, ce qui était n'est plus et on a progressé. Mais il faut accepter de dire, bon, ben, tiens, j'ai eu un sentiment un petit peu de jalousie sur ce coup-là. C'était pas terrible, mais bon, on sait très bien comment on est là-haut. Les guides ne sont pas trompés par ce que nous sommes, bien sûr. Donc on est aimé dans les plans supérieurs. Donc il faut accepter ce que nous sommes. L'autre chose qui est très importante, c'est d'avoir aussi une belle image de soi.
De toute façon, juste pour résumer ce que tu dis, il y a un mot qui revient dans ton discours qui est fabuleux, c'est le mot acceptation.
Oui,
voilà,
tout à
c'est
fait.
un mot dans lequel, même en cours, ou même dans le travail que l'on fait sur soi ou même sur autre, c'est accepter tel que l'autre, tel que nous sommes, et à travers cela, on pourra grandir.
Oui, il y a une phrase comme ça qui dit, je ne sais plus l'auteur, quand j'accepte ce que je suis, alors je peux changer.
Eh bien, on va conclure là-dessus, Serge,
très
parce
bien.
Que je trouve ça très joli. Et
merci, Manu.
Merci, chers auditeurs, de votre fidélité. On se retrouve très prochainement. Au revoir.